la journée, comme dans le Beth Amikdash, les Kohanim, ils se lavaient les mains et les pieds, avec le robinet qu'il y avait avec le lavabo qu'il y avait au Beth Amikdash, le lavabo en métal. On lavait quatre Kohanim à la fois, mains et pieds, avant de commencer le service. Donc, la journée d'un juif, c'est aussi le service de Dieu. Donc, on doit se laver les mains avant de commencer le service. Donc, il y a deux raisons du lavage des mains. La raison d'enlever l'impureté et la raison de commencer à Avodat Hashem de la journée. Donc, étant donné que, depuis le moment où on est levé, jusqu'au moment où on va prier, faire son service de Dieu de la journée, il y a un temps qui se passe où on s'habille, où on va aux toilettes, où on fait des tas de choses, donc on se relave les mains quand on est prêt, quand on est habillé déjà. Donc la première façon de se laver les mains, c'est pour enlever l'esprit d'impureté. La deuxième façon, c'est pour se préparer à la journée de service de Dieu.
Et quand
on vient avec la Tudaïm ? Au moment où on va faire les brachot du matin. Pas tout de suite. Voilà, exprès. C'est-à-dire cette Netilat Yadayim de la deuxième fois, c'est en vérité pour préparer la journée de la Avodat Hashem. Et comme les hommes et les femmes sont tenus de faire les brachot et l'étude, donc avant de commencer ça, on se lave les mains. Une deuxième fois, ça veut dire. Avec cette fois-ci avec un cli aussi. Pardon ?
Et celui qui prie pas le matin,
Il va toujours faire quelque chose dans la journée. Il va lire un Tehilim, il va prier, même s'il ne dit pas les mots de la fila, il va prier. Il va faire ce qu'on appelle une Avodat Hashem comme au Beth Amikdash. Voilà le.
Mais
bon, tu vois, que
le matin, c'est
une fille qui a dit tout à l'heure,
c'est
fou. Non, il ne faut pas faire le bras tout de suite. Faire le bras quand on est habillé, quoi. Quand on s'est lavé, quand on s'est. On a été aux toilettes, quand on a mis des chaussures, on a tout fait. Là, à ce moment-là, on fait la bracha de Netilat Yadayim pour la relier avec la deuxième bracha de celle des toilettes, la Shariat Tsar. Trois brachot qui sont indissociables. La Shariat Tsar et Elokai Neshama. Ces trois brachot là, on les lit en même temps. Donc, comme on les lit en même temps, alors on fait Netilat Yadayim à ce moment-là.
Avant
de s'habiller,
on fait la Shariat
Tsar
quand même.
Si on a été aux toilettes, il faut avoir été aux toilettes. Si celui qui s'est levé n'a pas été aux toilettes, il a un problème de dire la Shariat Tsar. Voilà, donc. Donc ça n'a rien à voir. Donc la première Netila, elle n'a rien à voir avec l'heure. Si on a dormi à la nuit, quelqu'un qui se met au lit il fait nuit à 5h30, s'il s'est mis au lit à 5h30, il se réveille à 6h30, il faut qu'il se lave les mains, puisque c'est le premier jet de nuit qui met l'impureté sur lui. C'est pour ça que les kabbalistes, par exemple, il se couche très tôt et il se réveille avant la nuit. Donc c'est en vérité le sommeil qui va de la nuit jusqu'à minuit qui est le plus grave en fait. Donc si quelqu'un il s'est levé par exemple en pleine nuit pour prendre le téléphone ou pour boire un verre d'eau ou pour ce que je sais, hein, pour allaiter un enfant, pour aller aux toilettes ou étudier, ou boire un café sur le balcon. C'est à partir du moment où il a dormi réellement, qu'il a perdu conscience, ça veut dire. Depuis le moment qu'il fait nuit, non, mais une demi-heure après, ça justifie Netilat Yadayim. Et donc, la suite de son sommeil, ça serait comme une sieste, en fait. Il va le refaire, mais ça n'a pas la même force, en fait. La vraie raison de Netilat Yadayim, c'est le premier sommeil. C'est celui-là qui enlève la neshama et qui la remet.
C'est pas un homme
qui
fait une sieste à
4
heures, on se lève à
6 heures, il fait nuit. Ah ouais, comme on a débordé dans la lion, on doit faire une Netilat avec un keli.
Et la
bracha? Non. La bracha, on est mahmir, on ne la fait qu'une fois par jour.
Ah.
Au moment où on fait les brachot du matin. Même si on fait les brachot du matin à 14h d'après-midi, parce que les brachot on peut les faire toute la journée en fait, on fera à ce moment-là la Netilat Yadayim à ce moment-là. Donc vous avez compris qu'il y a deux Netilas. Il y a la Netilas pour enlever l'esprit d'impureté et le contact qu'on a pu avoir avec son corps pendant la nuit. Ça, c'est la Netilat première qu'on fait sans bracha. Et il y a la Netilat qu'on fait avant de commencer la Avodat Hashem. L'étude, les brachot, le Teilim. Ça, c'est celle-là qui mérite la bracha. Parce qu'on est prêt à commencer la journée, quoi. D'accord? D'ailleurs, toutes les brachot, on les fait pas comme on aurait dû les faire. Théoriquement, on aurait dû faire les brachot au fur et à mesure qu'on fait les actes. Quand on s'habille, on aurait dû faire Malbich Arumim. Quand on met ses chaussures, on aurait dû dire... On aurait dû faire les brachot à chaque fois qu'on fait un acte. On voit qu'on fait pas comme ça. On attend d'être prêt pour faire toutes les brachot d'un trait, quoi. Pas de questions?
Et avant qu'on fasse la bracha
d'Aletia Tedaim,
on peut boire un café ou on doit attendre?
Par exemple, oui. Vous en avez boire un café?
Vous pensez
qu'il
fallait pas manger?
Manger,
c'est
pas manger.
Non, il faut boire un café parce que le café.
Il y a deux Netilas. Il y a la Netilas parce que
ça réveille et ça. Alors, si quelqu'un n'a pas pu aller aux toilettes.
Contact qu'on a pu avoir avec son corps.
Alors, c'est embêtant, parce qu'il va dire à Chayatsa sans aller aux toilettes.
Donc, première.
Si vous voulez un café, ça lui donne envie d'uriner, par exemple.
Avant de commencer les.
Dans ces cas-là, on a le droit. S'il peut s'en passer, il vaut mieux faire les brachot et boire un café après. Il a donné un café pour être disponible. Voilà, il peut boire le café aussi avant.
D'avoir fait toutes
tes bras. Voilà, pas de questions.
Et si on veut étudier dans la rue, ça m'est arrivé samedi là. Est-ce que je peux faire les brachot avant? Vous m'avez dit une fois.
Si on est après minuit, on peut faire les brachot, oui. Si on est après minuit, après Khatsot, on peut faire les brachot. Si on a dormi, on se réveille minuit, et qu'on veut étudier, alors on fait les brachot. Dans tous les cas, il y a le brachot de la Torah, si on veut étudier.
C'est pas le schéma.
Non, le schéma, il faut que le jour se lève.
Non, parce que c'est... Après, je me suis recouché et après, c'était tard pour faire le schéma israélien.
Non, mais les femmes, elles ne sont pas obligées de faire le schéma dans le Zman. Les femmes, elles ne sont pas obligées du tout de faire le Kriyat Shema. Elles font le Kriyat Shema comme une fila. Elles n'ont pas du tout d'obligation de faire le Kriyat Shema. Voilà. Pas de questions? Anagat Adam Baboké.
Par exemple,
comment faire
quand on se lève le matin, on a besoin d'aller aux toilettes tout de suite. On peut aller tout de suite sans faire des adhérents sans bracha?
Il vaut mieux. Non, il vaut mieux. Si c'est pas trop urgent, il vaut mieux toujours se laver les mains d'abord. Il faut pas garder ce roi-cra sur les mains, quoi. C'est très négatif de garder du mauvais esprit sur la main.
La façon de faire.
Alors, vous savez que pour faire des tilas, on fait du... D'après la... Alors, il suffit de faire des tilas une fois sur chaque main. Ouais. Prendre le kéli et une fois sur chaque main.
La première.
Toutes les tilotes. Il suffirait de faire qu'une fois sur chaque main. Avec ou sans ou pain ou toutes les métilotes yadaïn de la halakha, il suffirait de le faire qu'une fois sur chaque main. Parce que d'après la Kabbalah, on veut toucher aux 3 degrés de l'âme, donc on fait 3 fois. Mais par exemple les itaïm, ils font une fois sur chaque main et après ils font avec le kéli, ils font sur les 2 mains en même temps. Une fois sur chaque main, après ils prennent le kéli et le kéli, ils se versent l'eau sur les 2 mains en même temps. Donc en réalité, c'est rien que le fil à Kabbalah qu'on fait 3 fois.
Comment on fait 3 fois?
Que les gens qui font la Kabbalah. C'est en vérité, oh. Il suffirait de faire une seule fois. De réveiller sur chaque main une seule fois.
Et les mains,
bon, les gens aujourd'hui sont très, très généreux avec l'eau, quoi. Ils gaspillent beaucoup d'eau. Parce que, maintenant, ils ont fait le kélim à 1 litre. Et maintenant, ils font le kélim encore plus gros qu'un litre. Parce que c'est à la limite du gaspillage, quoi.
Ouais. Ouais.
Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que celui qui est généreux avec l'eau, ce goût-là pour la parmassa, etc. Donc les gens, ils sont toujours à l'affût de ces goulottes. Mais d'après la halakha pure, il suffit, stricto sensu, de prendre un révit d'eau sur chaque main. Maintenant, le chiot, la mesure sur la main, c'est... Comme il y a une discussion, si c'est métacarpe, c'est-à-dire l'articulation de la main, ou à l'articulation des doigts, alors comme on a la possibilité d'avoir beaucoup d'eau aujourd'hui, donc on le fait jusqu'à l'articulation des poignets, pas des doigts. Mais celui qui n'a pas d'eau, qui n'a pas beaucoup d'eau, ou le jour de Kippour, par exemple, le Shabbat, là, on fait, dans ce cas, l'autre opinion. On fait celle qui dit articulation des doigts. Non, là, c'est ça. Celui qui n'a qu'un verre et qui contient juste deux revilles, alors il fait comme ça. Par exemple. Dans les avions ou dans les pique-niques. Non, là, il a juste un cli. Et qu'il n'a pas d'autre eau. S'il a une autre eau, il en fait plusieurs fois. Là, c'est pas un problème. Il remplit plusieurs fois. Mais s'il n'a pas assez d'eau, il peut faire que le revit, c'est-à-dire 86 millilitres d'eau sur les mains. D'accord? Alors, comment fait-on cette métier-là? Donc, on l'a fait une fois, on fait en... Mais sirugis, ça s'appelle. C'est-à-dire en quinconce. Une fois à la droite, une fois à la gauche. Une fois à la droite, une fois à la gauche, une fois à la droite, une fois à la gauche. D'accord? Voilà.
Et après, pour... parce que moi, j'ai l'habitude de mettre mes mains sur ma tête quand je...
Alors, avant de faire la bracha, on se lave avant la bracha, et avant de sécher les mains, on fait la bracha. On ne sèche les mains qu'après.
L'importance,
mais
il faut où est-ce qu'elle se place.
Alors, d'après la Kabbalah, il y en a qui font ça au niveau de la tête. La Netilah du matin, il lève les mains au niveau de la tête. À l'origine, on lave les mains. À l'origine, on lève les mains que pour faire descendre l'eau, en fait. D'accord ? En hauteur. Contrairement à l'eau à la fin du repas. Maïmacharolim, on fait tomber l'eau vers le bas. Cette eau-là, on la fait descendre sur les doigts. Mais dans tous les cas de figure, justement, on enlève l'eau des mains sans serviette. Donc, on enlève l'eau des mains sans serviette. Et on garde un peu d'eau pour faire un chif-chouf, pour frotter la main contre l'autre. Donc on s'achève, on fait la bracha avant de sécher. Et celui qui a oublié, qui a séché, ben il fait la bracha après. Pour quelle raison? C'est qu'en vérité, on sait très bien que dans toutes les mitzvot, on doit faire la bracha avant la mitzvah. D'accord? Toujours la... Les mitzvot, dans les mitzvot, il y a pensée, parole et acte. Donc la pensée, c'est la kavana, quand on est en train de faire une mitzvah, on doit penser à ce qu'on est en train. Et après, dibour, après on doit dire la bracha, et après on doit faire l'acte. Donc c'est pour ça que dans toutes les mitzvot, dans tous les 613 mitzvot, on doit faire toujours la bracha. Maintenant qu'on a la marchava, la pensée là, maintenant le dibour doit être là, et après l'acte doit être là. Marchava, dibour, maasé. D'accord? Alors, il arrive quelquefois que si l'acte a été fait, on ne peut plus faire la bracha. Et il arrive quelquefois que même si l'acte a été fait, on peut faire la bracha. Donc, alors, quelqu'un qui... Alors, dans quel cas on a le droit de faire la bracha quand l'acte est fait? C'est quand l'acte continue. Quand l'action se continue, l'acte de la mitzvah se continue, là on a le droit de faire la bracha, puisqu'en réalité l'acte n'est pas fini. Par exemple, les tefilines, le pain, vous avez encore à manger, donc vous pouvez faire la bracha, vous pouvez faire la bracha après, alors vous en avez déjà mangé. Chaque fois que vous faites une mitzvah qui se continue, dont l'impact se continue, vous pouvez faire la bracha, même si l'acte a déjà commencé. Maintenant, quand l'acte est fini, là vous pouvez plus. Par exemple, vous trempez un keli, ça y est, il est déjà trempé. Donc vous pouvez plus dire al tvilat al kelim, c'est fini. Donc dans Netilat Yadayim, c'est pour ça que Netilat Yadayim, on doit faire la bracha avant de les sécher. Parce que vous faites la Netila, on a le minag de frotter les mains après la bracha. Mais si par inadvertance, quelqu'un a déjà séché les mains, pourquoi peut-il faire encore la bracha? Puisque l'impact de la netila est encore en train de jouer, puisque vous n'avez pas rendu vos mains pures, elles sont toujours pures. Donc vous pouvez continuer, vous pouvez encore faire la bracha. Comme vous dites sur la challah, s'il vous reste encore une autre fournée à Ron, vous pouvez encore toujours faire la bracha par la suite, ou dans une shrita, si on doit encore faire d'autres shritot. On a égorgé encore d'autres poulets, par exemple. Donc, quand il y a une possibilité que l'acte se continue, là, on a le droit de faire la bracha, alors que l'acte a déjà commencé. Si l'acte est fini, alors on ne peut plus.
Comment on mange quelque chose,
on a oublié. Voilà. Si vous mangez quelque chose, si vous en reste encore, vous pouvez faire la bracha, puisqu'il vous en reste encore à manger. Si vous en reste plus, là, vous ne pouvez pas. Vous avez bu un verre d'eau et vous avez oublié la bracha. À moins que vous ayez un autre verre d'eau devant vous, vous ne pouvez plus faire la bracha. Parce que l'acte a déjà été fait.
Mais juste pour boire de l'eau, est-ce qu'on est obligé de faire à chaque fois une
bracha
dans la journée?
Si vous avez l'intention de reboire sans arrêt, parce que vous faites une cure d'eau alors.
Quand on fait une cure d'eau, on ne sait même pas
quand est-ce qu'on s'arrête. Si vous êtes dans le même endroit, dans une même salle par exemple, vous pouvez faire une bracha une fois et ne pas la refaire plusieurs fois. Mais si vous êtes, si vous vous déplacez, ou si vous êtes surpris par un nouveau liquide que vous n'attendiez pas, là, vous devrez refaire. Et pareil pour la bracha finale, quoi.
Si je bois un verre d'eau, je fais la bracha.
Et vous savez que vous allez en revoir encore dans un quart d'heure.
Non. Et après, je bois un verre de cola.
Ben, si vous n'avez pas l'intention de, d'englober tout ça dans la bracha du départ, ça marche pas. Si c'est une surprise, c'est une surprise, donc on refait. Bon, vous avez compris donc le métier d'intérim dans la marche?
Écoute, j'ai des gens qui, quand ils font les lacs pour ramasser, prennent une serviette et...
C'est le minac du Rabbi Rachab. C'est ce soir l'anniversaire d'ailleurs. C'est un minac du Rabbi Rachab parce qu'en vérité, après la halakha, je vous dis, il suffisait d'un revit sur chaque main. Maintenant, vous versez un deuxième revit sur chaque main pour enlever la... pour enlever l'éventualité que l'eau est, soit descendue, l'eau n'est pas de l'eau impure en quelque sorte, puisque dès que l'eau touche les mains, si elles sont impures, elle devient impure elle-même. Alors pour enlever cette première eau, on utilise une deuxième fois le kéli. Donc pour éviter de contacter les... pour que les mains soient toujours indépendante de l'eau, alors le rabbi Rachab, il en prend une serviette. Mais c'est que les chassidim qui font ça. D'après la halakha, il n'y a pas besoin, puisque quand vous faites ça deux ou trois fois, c'est évident que la première eau, elle a disparu déjà. C'est une takana du rabbi Rachab qui n'est fréquentée que par les chassidim, quoi.
J'ai entendu dire que la droite donne à la gauche, et c'est la gauche qui sert la droite au départ. Est-ce que c'est...
Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Quand on mange du pain, on prend le quai de la main droite, après on le fait passer de la main gauche, on verse la main droite. Voilà. Ça, ce sont des halakhot du matin, élémentaire. Voilà. Pas de questions ?
Est-ce qu'on peut
faire
sa prière en pyjama ?
Non.
Sa prière en pyjama ? C'est-à-dire quoi, sa prière? Ça dépend ce que c'est qu'on prière. Si c'est une amida, si c'est la amida, il faut être présentable. Tout ce qui n'est pas amida, on peut être en pyjama. Pour la amida, il faut se présenter comme si on se présentait devant un haut dignitaire ou un roi. Mais à part la amida, on peut être toujours en pyjama. Parce que c'est tout ce qui n'est pas lié avec une fila devant le créateur, on peut être en pyjama si on n'a pas envie de se rhabiller.
Pourquoi
toutes
les prières avant la
mida, c'est pas
les prières devant le créateur?
Non, c'est des préparations personnelles, comme le Kriyat Shema, comme les psukim, comme les mizmorim, tout ça, c'est des préparations. La seule prière qui est devant le créateur, c'est la mida. Tout le reste, non.
Je suis dans mon propos. Ça dépend, il y a des gens qui se lèvent toute la matin et qui
courent
toute la journée pour...
Non, mais
sur les pyjamas, peut-être... Non, mais de toute façon, vous allez vous habiller. Si vous levez tôt le matin, c'est parce que vous allez partir.
Oui, mais il y a des gens qui... Moi, par exemple, j'ai besoin de... Je me lève à 5 heures. J'ai besoin de 2 heures de boire mon café, de me réveiller, quoi.
Ouais, ouais.
Et après, je m'en prie...
Mais oui, mais vous n'allez pas sortir en pyjama, de toute façon. Mais je ne crois pas.
Mais
en pyjama. Non, justement, c'est parce que si vous avez de 2 ans à aller sortir, donc comme vous seriez présenté devant le Premier ministre ou le roi, pour faire la mida, il faut se porter comme ça. Mais alors, ce qui n'est pas la mida, c'est pas un problème. Et t'es illim.
Oui,
voilà. De quoi? De tout le monde, j'ai Hatsot.
Avant
Hatsot,
je pensais que...
Avant Hatsot, oui.
Parce qu'il y a deux
horaires,
la
8h30
d'après le...
Oui, parce que la fila, a priori, elle doit être faite à la 4e heure. Mais a posteriori, elle peut être faite jusqu'à la 6e heure.
Jusqu'à
Hatsot. Voilà. Ça, c'est de l'amida que vous parlez.
De l'amida.
Voilà. Tout le reste n'a pas besoin de... n'est pas lié au temps. Voilà, maintenant on est dans Chaye Sarah. Marchant Chaye Sarah. Alors, ce qui est important, c'est que on a toujours tendance à confondre les patriarches entre eux. C'est-à-dire, on dit toujours Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Rachel. Alors qu'en vérité, les patriarches entre eux ne sont pas ressemblants. C'est-à-dire que l'homme ne ressemble pas à la femme du tout dans les patriarches. Mais c'est pas parce qu'ils sont mariés qu'ils se ressemblent. Tant s'en faut. Et ça, on le voit très clairement dans le... plus encore dans Abraham et Yitzhak que dans les autres. Entre Abraham et Sarah que dans les autres. Abraham et Sarah, hein, on les voit, ils sont toujours ensemble. Hein, on a l'impression qu'ils ont, ils font un duo inséparable. La preuve, c'est que la paracha de Ray et Sarah, elle continue à nous parler de Sarah alors qu'on ne parle plus, alors qu'elle n'est plus là. Voilà. Abraham est là, mais elle n'est plus là. Et pourtant, on l'appelle Ray et Sarah, c'est-à-dire qu'on veut te dire par là qu'Abraham et Sarah resteront toujours Abraham et Sarah, même si un des deux n'est pas là. Donc il y a effectivement un côté inséparable entre les deux, mais il y a un détail qu'on doit, auquel on ne fait pas attention, c'est que les deux objectifs et deux comportements d'Abraham et Sarah sont différents. Ils n'ont rien à voir. Qu'est-ce qui se passe? Abraham, on voit que lui, on l'a déjà dit la semaine dernière, Abraham, il est toujours lié avec la bonté. Il fait toujours tout d'après la bonté. Et on voit que Sarah, elle ne lui ressemble pas, justement. Sarah, elle fera les choses avec la bonté, mais elle a toujours une vision beaucoup plus lointaine que lui. C'est ça la force de Sarah, c'est qu'elle a une vision beaucoup plus lointaine que Abraham. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a, au Hachem, énormément de problèmes de shalom bayit, problèmes de couple. Alors, il y en a qui veulent dire, il y en a qui veulent dire que la plupart du temps, les problèmes de couple proviennent de l'homme, etc. Mais dans le couple, il y a beaucoup de questions qui viennent de la femme, justement. À savoir, dans l'histoire de Abraham et de Sarah. On voit qu'Abraham, lui, il est porté par sa nature de bonté, et que, là, c'est que Sarah, justement, elle contrôle que cette bonté soit dirigée dans le bon sens. Et c'est un peu ce qui se passe avec les couples. C'est que, au lieu que chacun essaye d'avoir un rôle à jouer, donc savoir quel est son rôle, chacun essaie de mettre sur l'autre la responsabilité des problèmes et de l'échec. Donc là-dedans, les femmes sont aussi responsables que les hommes. On voit bien que dans l'histoire d'Abraham et Sarah, nullement Sarah a dit on divorce. Elle aurait pu dire si c'est pas comme ça, on divorce. Si c'est pas comme moi je conçois la vie, eh ben on arrête. Bon, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne, ça. Pourtant on voit que Sarah est une femme. Une forte personnalité. Non seulement elle a une forte personnalité, mais c'est grâce à elle que tout s'est bien passé, en fait. Que toute l'histoire entre eux s'est bien passée, c'est grâce à Sarah. Et on voit nulle part que Sarah fait des scandales. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le travail de la femme, donc Sarah c'est le, comme dit le Harizal, Sarah c'est le Gilgoul de travail. Que ça veut dire être le Gilgoul de quelqu'un? Que ça veut dire être la réincarnation de quelqu'un? La réincarnation de quelqu'un, c'est de venir sur Terre pour ne pas faire les erreurs que le Gilgoul d'avant a fait. En fait, pour ne pas faire, et donc par là, le réparer. C'est-à-dire que Sarah, contrairement à Chava, elle a pas profité du défaut de son mari pour fauter. Elle a au contraire utilisé sa supériorité en tant que femme pour diriger comme il faut le caractère précède exagéré d'un femme. Chava aurait pu aider Adam Harishon. Elle n'a pas aidé, elle a fait fauter. Donc Sarah revient. Chava revient dans le Gilgoul de Sarah. Justement pour là où l'homme est trop va trop dans une direction, la femme soit là pour le diriger dans le bon sens. Et la preuve, c'est que Abraham, il aime tellement les gens que même son fils, Ishmaël, il va lui pardonner tout. Hein? Rashi vous dit ça dans la paracha de la semaine dernière, quand il écrit Vayera, l'eau, ça lui a fait beaucoup de peine à l'autre Benoît, à propos de son fils. Quand il apprenait que son fils tirait des flèches sur Yitzhak et qu'il disputait qu'ils en arrière, il a écrit dans le passereau que ça lui a fait du mal à propos de son fils. Alors Rachid donne là-bas deux réponses. Il dit que ça lui a fait, du mal. Il dit première réponse, ça lui a fait du mal de savoir que son fils tournait mal, de devenir un voyou, etc. De se dévoiler comme un sauvage. Et Rachid dit non, mais dans le pchat, ça lui a fait du mal d'entendre que sa femme parlait sur lui. C'est Sarah qui lui a dit. Je veux pas qu'il reste là, parce qu'il fait du mal à Yitzhak. Donc ça lui a fait du mal d'entendre de mauvaises choses sur Ishmael. Le premier pshat, il dit, ça lui a fait du mal, puisqu'on dit du mal. Le deuxième pshat, il dit que ça lui a fait du mal d'entendre qu'on dit du mal de lui. Donc on voit qu'Abraham, il n'arrive pas à se détacher du chesed qu'il y a avec les gens. Et ça, Sarah, il fait halte là, Atkan. Jusque là. Tant que le chesed est diffusé dans l'absolu, ça ne me dérange pas. Mais dès que le chesed va nuire à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire l'avenir du peuple juif, c'est Yitzhak, alors là, tu ne veux pas ton chesed. Ah, je suis, puisqu'il est chesed, mon mari, ou je divorce, ou je le casse. C'est quoi? Ou je divorce, ou je le casse. Elle a dit non, elle lui dit, tu sais quoi? Précède, c'est pas toujours bon. La preuve, c'est qu'Ishmael ne peut plus le garder. Donc on voit bien que Sarah, Elle a un rôle très 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 éducateur, même avec son mari. Elle prend les choses en main, ça veut dire. Elle aurait pu dire, bon, ben, avoir un milieu comme ça, bon, ben, on laissera faire les choses comme ça. Dieu aidera. Non, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Tu dois lui dire que Ishmaël, il est négatif pour la suite de l'histoire. Elle n'est pas intervenue auprès d'Ishmaël ou d'Agar. Elle est intervenue auprès d'Abraham. Et ça, c'est le rôle de la femme. C'est-à-dire de maintenir la tikshoret, maintenir la communication avec l'autre. Tout couple ne peut exister que s'il y a communication. C'est la communication qui fait la réussite d'un couple. Ni l'amour, ni les honneurs, ni le rire, ni le caractère, c'est la communication. Parler. Et on voit que Sarah, c'est grâce à Sarah que tout a lieu, en fait. Beaucoup plus qu'Abraham. Abraham, en réalité, il est, en quelque sorte, tutélisé par Sarah. Elle est son tuteur, elle n'est pas seulement sa femme, elle est son tuteur. D'ailleurs, toutes les Sarahs, c'est comme ça dans le... Si vous connaissez des filles qui s'appellent Sarah, elles auront toujours ce rôle-là dans la vie, c'est d'être tuteur de la famille, et tout. Je fais ça, elles ont ce caractère-là de parrainer les situations, de les diriger pour que ça se passe bien. Quoi. Et donc elle a réparé et elle a empêché de refaire ce que Chava avait fait. Chava aurait dû dire, puisque mon mari Adam Arishon est influençable, je vais donc être là pour l'empêcher d'être influencé. Au lieu de ça, elle a exploité sa faiblesse pour qu'il faut tous les deux. Donc quand on dit dans ce que Harris permet de dire c'est le gigoul que Sarah est gigoul de Chava, c'est que, effectivement, elle est venue pour ne pas faire ce que Chava a fait. Elle a pas seulement réparé, elle a orienté complètement la relation entre le mari et la femme. Et la preuve que c'est pas comme ça qu'on doit faire comme Chava, c'est qu'elle ni elle ni lui ont dit on s'excuse. Chacun a mis la faute sur l'autre. Un facteur extérieur. Alors elle aurait dû dire, non, c'est pas lui qui a fauté, c'est moi. C'est moi qui l'ai incité à manger le fruit. Elle dit, non, c'est le serpent m'a incité, et lui dit, non, c'est ma femme, la femme que tu m'as donnée. Donc chacun met la faute sur l'autre. C'est pas seulement enfantin. Enfantin, c'est dégoûtant. Exactement. Elle aurait dû dire, j'aurais pas dû écouter le serpent, c'est moi qui ai influencé mon mari. Il dit, non, j'ai été influencé par le serpent. Et lui dit, non, c'est la faute de la femme que tu m'as mise. Donc on voit que Sarah, en tant que gigoul de Chava, elle ne fait pas du tout ça. Elle dit, c'est vrai que c'est moi qui t'ai donné Agar, mais maintenant que nous on a un enfant, on n'a plus besoin d'Agar et Ishmaël. Donc tant que Agar et Ishmaël se tenaient bien, mais on les gardait. Maintenant que je vois que Ishmaël est un poison pour Yitzhak, je te raconte ce qu'il fait. Et ça fait de la peine à Abraham. Elle sait bien qu'elle va lui faire de la peine. Mais elle est obligée de lui faire de la peine. Elle ne peut pas dire, non, mon mari, le pauvre, il aime tellement son fils, qu'on ne va quand même pas tout casser pour des histoires d'enfants. Elle dit non, elle dit halte là. Et Abraham est si peu convaincu de la justesse de la, l'analyse de sa femme, que Dieu était obligé de lui venir en prophétie en lui disant, écoute sa voix, parce qu'elle est plus prophète que toi. Pourquoi elle donne ça? Il aurait pu, par son bon sens, dire, elle a raison. Elle dit non, je vais être bon, je vais être bon. En gardant Ishmael, on va encore avoir l'influence sur lui, il va rester, tu vas voir, on va le changer. Et à l'époque, il y avait la Nevoa. Donc la Nevoa lui parvient, il lui dit, écoute, ta femme, elle a une meilleure Nevoa que toi, une meilleure prophétie que toi. Pourquoi il y a besoin que la prophétie, que Dieu lui parle? Il ne pouvait pas le comprendre lui-même? Non. Il ne pouvait pas comprendre lui-même. Lui, il aurait encore utilisé la bonté, en disant encore plus de bonté avec Ishmael, ça l'arrangera. Et Sarah, elle dit non. Et au lieu qu'il se dispute, il a un dévoilement qui lui dit, elle est plus prophète que toi, écoute-la. Ça veut dire que Sarah voit plus loin que lui. Et c'est pas seulement ça, le Mara nous dit que toutes les quatre matriarches étaient plus prophètes que leur mari. Chacune d'entre elles, Rivka par rapport à Yitzhak, la même chose, elle va avoir la prophétie que c'est pas bon d'avoir Rachel de Sam, et Rachel et Léa, donc plus de prophétie que les maris, en fait. Ils sont supérieurs en prophétie. Pardon? Ouais. C'est ce que dit Agma, il n'y a pas que Sarah qui était plus prophète que Abraham. C'est toutes les quatre matriarches étaient plus prophètes que les trois patriarches.
On dit que l'homme c'est la Chokma et la femme c'est la
Bina. Ouais, d'accord. En général, l'homme c'est ça et la femme c'est ça, mais dans le cas des patriarches, il y avait une dimension de plus chez les femmes, c'est d'être plus prophète. Ça veut dire qu'elle voit que la bonté d'Abraham, elle ne peut plus marcher avec Ishmael. Il faut les chasser. Alors qu'une autre femme, elle aurait fait un scandale, ou elle aurait dit... Non, elle est très intelligente, elle lui dit, voilà ce qui se passe avec Ishmael, et il faut les chasser. Et Abraham, ça lui fait de la peine, mais il faut le dire. Ça veut dire qu'il y a une tic-chorette entre eux. Grande communication entre eux. Parce que, dans un autre couple, ça aurait pu faire un drame, puisque lui, il le voit comme son fils, et elle le voit comme l'ennemi de la famille. Donc, il n'y a rien de mieux pour faire exploser quelque chose dans ça. Et donc, ça nous apprend que, ça doit nous apprendre, parce que tout le Sefer Bereshit, il n'y a pas de mitzvot dans le Sefer Bereshit, à part la procréation et la mila, et le nerf sciatique, on n'apprend pas grand-chose là-bas. Et justement, on apprend plein de choses qui sont plus que des mitzvot, qui sont des comportements qu'on doit avoir, qui sont le derech eretz, comment on doit se comporter dans la vie. Donc les gens qui ont les problèmes de Shambait, c'est Aleph parce qu'ils ne veulent pas instaurer la communication, et ça il faut l'instaurer. Et même si la communication elle est violente, il vaut mieux qu'elle ait lieu que de se taire. Ça, elle aurait pu prendre ses valises et partir. Tu as choisi Agar et Ishmael, moi c'est moi qui prends les valises. Elle n'est pas comme ça. Elle lui dit la vérité sur Ishmael. Ça veut dire qu'il faut, rentrer dans le vif du sujet et établir une vraie relation qu'il y a entre les gens.
Mais c'est vrai que...
Ça paraît dégoûtant ce qu'elle fait, Agar. C'est elle qui, Sarah. C'est elle qui a fait venir Agar. C'est elle qui a provoqué la naissance d'Ishmael. Et maintenant, elle lui dit, mets-le dehors. Ah oui. Il y a des temps pour ça, Même si c'est pas populaire, par contre, si tout le monde l'a critiqué de l'avoir chassé, elle a été obligée de le faire. Elle a sauvé le peuple juif. Elle a plus que sauvé son foyer, elle a sauvé le peuple juif.
Justement, aussitôt, elle est morte, elle est partie,
Yitzhak a fait revenir Rivka, et Ismaël est rentré aussi.
Oui, parce qu'après, quand Sarah s'en va, c'est la parasha de cette semaine, quand Sarah s'en va, Agar fait tchouva, et Ishmael aussi fait tchouva. Donc ça devient une autre dimension des relations entre... c'est pas qu'elle en avait après Ishmael en tant qu'Ishmael et Agar en tant qu'Agar. C'est comme ils étaient qu'elle ne les voulait pas. À partir du moment où ils ont changé. Alors ça marche. Abraham, ça ne peut pas trahir Sarah que se marier avec Agar à nouveau, puisqu'elle a changé. Elle rentre dans l'esprit de ce que Sarah aurait voulu. Ishmael, il a fait tchouba à la fin de sa vie, alors qu'ils savent non, il ne fera pas tchouba à la fin de sa vie. Il mourra bandit. Alors qu'Ishmael, non, il a accepté que Yitzhak est le fils de l'héritage, et lui se met derrière. Ça veut dire que Sarakol, l'éloignement que Sarah a provoqué a été favorable. Et il a été fructueux. Il n'a pas été négatif, comme on aurait cru. Que de l'éloigner de la maison, il va vraiment devenir un idolâtre, et elle va retourner à l'idolâtrie. Oui, pendant un certain temps, c'est vrai qu'ils ont eu une chute, mais ça, après, ça s'est arrangé. Donc, ça veut dire que Abraham, il aurait eu tort de les garder. Ça ne se serait pas produit. Il n'y aurait pas eu de chouva, au contraire, il y aurait eu un pourrissement de la famille, et Yitzhak aurait été peut-être tué par Ishmael. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision de Sarah, elle est exacte. Elle a eu le courage d'en parler. Elle aurait pu dire, il vaut mieux se taire, mon mari est trop chassé, donc je peux pas faire avec lui. Ben oui, tu peux faire avec lui, la preuve. Ah, vous allez dire, alors comment aujourd'hui ça marche? Tout le monde n'a pas le mérite que Dieu vienne parler pour dire, écoute, ta femme, elle est plus prophète que toi. D'accord? On a l'impression que dans le Tanakh, les problèmes se règlent plus facilement parce qu'il y a toujours l'intervention d'un ange ou du bon Dieu lui-même pour mettre les choses au clair. Enfin, aujourd'hui, ça marche par la providence. Providence, elle sert de l'indicateur. De la même façon qu'au temps du Tanakh, quelqu'un pouvait entendre une prophétie et ne pas en tenir compte, pouvoir la occulter, dire j'ai mal entendu ou j'ai mal compris, ou c'est pas ça qu'on a voulu dire. Et donc, il fallait que la prophétie revienne, qu'elle insiste, comme on voit avec Jonas, par exemple. Jonas, on lui redit les choses. Et beaucoup de fois dans le canard, on voit que la même prophétie revient plusieurs fois à celui qui ne veut pas la comprendre comme il faut. Donc ça veut dire qu'il y a toujours le libre arbitre, même si c'est la prophétie. Donc Abraham, il aurait pu dire, non, je ne suis pas d'accord qu'elle est plus prophète que moi. Moi, je sais que Ishmael, il est bon profondément. Les êtres humains, ils sont bons. Donc il faut le garder, même si elle est prophète, elle ne comprend pas de la vie. Vous avez compris que le premier message était le bon. Voilà, les choses arrivent aujourd'hui, même s'il n'y a pas de prophétie directe, il y a les appels de la Providence qui font dire aux gens, qui donnent aux gens les signes des choses. Les points, la Hashgacha pratique, puis que les gens peuvent analyser et dire, bah, ah oui, effectivement, ma femme a eu raison là-dessus, donc on n'est pas moins lotis aujourd'hui qu'au temps des prophètes, en fait. Surtout qu'on a Yitzhara moins fort que leur temps. Donc on a Yitzhara moins fort que leur temps, on n'a pas besoin d'un dévoilement de prophétie pour apprendre une chose. On peut, avec la bonne volonté, une oreille active, retenir les choses. Donc on voit que les personnages de Sarah et de Abraham, en réalité, ne se ressemblent pas exactement. C'est pas comme on croit. Comme d'ailleurs les assimilationnistes aiment dire, oui, dans le judaïsme, la femme, elle est soumise à l'homme, ta 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 ta, on ne voit pas dans le Tanakh qu'une femme, elle soit soumise à l'homme. Depuis, quand vous regardez toutes les femmes de l'histoire juive, jamais elles sont soumises à rien du tout. Donc ça veut dire que c'est un gros gros bluff, cette histoire de dire que la femme elle est soumise à l'homme, elle est... Où elle est soumise à l'homme?
Notre génération...
Avec Adam et Chava, elle n'est pas soumise à l'homme. Avec... Noah et Naama, elle n'est pas soumise à l'homme, puisqu'elle était... Elle avait ses frères qui étaient des Isabelle des idolâtres. Elle est... Naama, c'est Naama, la femme de... La femme de Noah. Et que certainement, elle a dû jouer un très grand rôle dans la construction de l'arche et dans le sauvetage de l'humanité. Sinon, elle n'aurait pas été la femme de Noah, on l'aurait pas citée comme la seule rescapée du déluge. Donc on voit bien que quand on cherche le chemin, non seulement ils n'ont pas soumis à l'homme, mais c'est elle qui dirige l'histoire. Chaque fois dans les matriarches, c'est elles qui ont le dernier mot. Comme Rivka qui a empêché l'erreur de Yitzhak, qui était prêt à bénir ça.
Alors justement, j'ai entendu parler que Rivka, elle avait une coup de Rava.
Elles sont toutes les guilgoules de Rava, les matriarches, non? Oui, parce que là, quand on est Gilgoul, c'est pas parce qu'on est Gilgoul de quelqu'un qu'on va tout régler. Des fois, il y a besoin de plusieurs passages, plusieurs étapes, pour que le travail de la première personne soit terminé. Surtout que Rava, c'était la mère de toute l'humanité.
Et c'est pour ça qu'ils sont
prévenus
que...
Tout ensemble, voilà. Là, quoi, mais... Exactement. Comme c'est connu que les... C'est connu dans les lois de sur les cimetières, quoi. Que les gens aiment être enterrés par affinité. On n'aime pas être... On veut pas passer sa mort... avec quelqu'un à qui on ne s'entend pas exactement.
Savoir qu'on va être enterré.
Non, la providence fait que si on a du fruit, on est enterré. D'après, il y a plein de gens qui ont été enterrés dans les endroits et ils sont venus en rêve à leurs descendants pour dire qu'il fallait pas les laisser. Ben ouais.
Et c'est pour ça Narka qui a voulu payer les 400.
Mais exactement, c'est pour ça qu'il a payé les 400 chez elle. À Ephron, parce qu'il voulait absolument que Sarah soit avec Sarah. C'est son... Elle est venue lui dire, eh, voilà, ça y est, là, je t'ai arrangé un peu, là, hein, je t'ai recadré.
C'était Ephron qui était
cool. Nahon. Il faut voir ça dans le Harizal, comment ça se goupille, Rachel et Léa, par rapport à Chava. Dans le Harizal, il explique le chorèche de chacun. Mais probablement, c'est Léa, effectivement. Et donc, le chidouche de Sarah, c'est que justement, elle fait pas, elle n'a pas la discrétion de Rivka, qui passe par un piège pour faire ce qu'elle doit faire. Elle va d'Ougri. Sarah, c'est la princesse. Sarah, c'est la princesse. On va droit au but. Elle lui dit, vire-moi la servante et son fils, ta 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 ta. Donc, ça veut dire que la femme,
ouais.
La femme, elle est, en vérité, elle ne doit pas craindre de tout casser parce qu'elle exprime quelque chose dans la maison qui peut faire problème. Alors évidemment, il faut avoir l'impulsion. Il ne faut pas déclencher un problème pour une histoire pour un djouk. Ou parce que les parents, ils ont dit, ou les voisins, ils ont dit, ou les amis, ils ont dit. Alors, bêtement, tu répètes au mari, voilà ce qu'il faut faire. Non, ça marche pas comme ça. il faut savoir si c'est émet ou pas. Et si c'est émet, il faut le dire. Ah, on verra ça plus tard, quand on sera à Léa. Léa, elle a réparé la... Elle répare le serpent, Léa. Elle répare le, la faute du serpent directement, pas, pas simplement un défaut de caractère de Sarah, elle répare le problème du serpent. C'est pour ça que sa fille va tomber avec le fameux histoire de Shrem là-bas, le Gilgoul du serpent. Ouais. Donc on voit que cette histoire des patriarches, les gens ils croient que c'est un couple parfait, qui marche ensemble, un duo sans problème, etc. Pas du tout. Pas du tout. Chacun a un caractère particulier, a une vision des choses particulières, et il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force. La preuve, c'est que quand ils reçoivent les anges, il lui dit Louchi, si vous gote, etc., etc., etc. Il lui dit qu'est-ce qu'elle doit faire. Kemar. Il lui dit Kemar. Prendre la farine et fait les gâteaux. Bon, c'était à peu près une demi-tonne de gâteau qu'elle devait faire, quoi. Et on voit que lui dit, elle prend du solette, si vous avez remarqué. Lui, il lui dit la farine, elle lui fait de la semoule. Pourquoi? Parce que la farine, ça rend impur. Et dans les dinim de Beth Amikdash, on n'utilisait pas la farine, on utilisait justement la semoule. À cause de la pureté et de l'impureté. Parce que la semoule, c'était de la farine purifiée. Donc elle est. C'est là qu'on offre au Beth Amikdash. Donc, puisqu'on offre au Beth Amikdash, elle peut être rendue impure. Alors, que le kémar, c'est quelque chose qui est plus vulgaire, donc il ne prend pas l'impureté. Donc lui, pour éviter les problèmes de pureté et d'impureté, il a dit prendre la farine. Mais quand on prend la farine, on pouvait pas prélever la chala sur la farine à ce moment-là. Et elle qui veut prélever la chala, alors elle dit, non, mais je ne vais pas t'écouter, je vais prendre du son du souhait. Donc on voit bien que, même là-dedans, lui, il donne son avis, et elle est autrement. Et c'est pour ça qu'il n'a pas proposé aux anges les gâteaux qu'elle a fait, parce qu'il savait qu'il y avait des problèmes d'impureté là-dessus. Elle a dit, moi, je veux faire ma mitzvah de chala, qu'est-ce que tu m'imposes du kémar? Moi, je veux faire la mitzvah. Mais lui, il a eu peur qu'il y ait des problèmes d'impureté, donc il a dit kémar. Ben, il dit, mais moi, je vais faire chala. Donc, elle a fait chala, il n'a pas pu présenter les gâteaux aux invités. Parce qu'il savait qu'ils avaient été faits dans l'impureté. Et vous voyez bien qu'il lui a pas dit un mot. Il n'a pas dit à sa femme, qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai dit, Kémar, tu fais solette. Oui. Donc il a très bien compris que lui, il avait une intention, elle avait une autre intention, Donc on voit bien que dans le couple, encore une fois, il y avait une harmonie parce qu'il se bagarre, mais sans se parler, en fait. Il aurait pu lui faire une allusion. Que je t'ai demandé du kémar, tu m'as pris du solet. C'est pas pour rien que je t'ai demandé kémar. Tout ce que je fais, moi, je suis un patriarche. Donc, tout ce que je fais, c'est un signe pour les enfants, pour l'avenir, c'est tout calculé.
Vous voyez grand, quoi, un petit peu.
Donc, il voyait comme un prophète, et elle le voit comme elle voit, et elle impose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il lui a rien dit. Il a rien dit, il a dit à cause de toi, j'ai pas pu envoyer du pain parce que c'était impur tout ça. Ils ont mangé sans pain, ils ont bien mangé, vous allez dire. Mais ils ont mangé son pain. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc on voit bien que, encore une fois, le rapport qu'il y a entre les patriarches, c'est pas un rapport de connivence et qui chacun dit ça bénit oui par rapport à l'autre. C'est vraiment un rapport de dualité entre l'homme, entre un homme et une femme. Mais c'est pas un rapport qui a échoué comme Adam et Chava. C'est un rapport qui a réussi.
Non, parce que la parole, c'est l'orgueil.
Non, vous confondez avec Pessah. Tout ça, c'est plus, évidemment, tout ça prend le Chametz, devient Chametz.
Ah, oui.
On parle de loi de pureté, la pureté par rapport au Beth Amikdash. Donc, on voit bien que tout le sujet de la relation humaine, hommes et femmes, mais Bichla, la relation humaine, elle est justement dans la finesse des choses. Dans la finesse des choses. Ne pas être grossier. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des moments où il faut élever le ton. Et c'est ce qu'elle a fait avec à cause d'Ismaël. Donc quand les gens vous disent, oui, Abraham et Sarah, c'était vraiment des couples parfaits, Abraham et Sarah, Ivka, hein, pas du tout. Vous voyez bien que dans l'Aftara de cette semaine, d'ailleurs, David et Bercheva, Bathsheva, ça va être aussi un problème, un rapport de force. Qu'elle lui dit, je veux être sûr que ce soit justement le futur roi et pas les autres. Donc c'est stupide de croire que les femmes du Tanakh, c'est des femmes dociles, et que les hommes du Tanakh, c'est des machos qui font ce qu'ils veulent. Ils font rien de ce qu'ils veulent, et ils ont toujours tendance à écouter leurs femmes. Alors des fois ça rate, comme Adam Arishon, qui lui dit à sa femme, sois tranquille avec ton cadeau, là, je dis, ton arbre. Donc il a voulu jouer le bon associé à la femme, en réalité il a tout cassé. Alors qu'Abraham, on voit qu'un couple où il y a la communication, même s'il y a un affrontement, ça marche. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre. Dans les relations humaines, que ce qui compte, c'est la communication, même si on n'est pas d'accord. Et donc, à ce moment-là, même si on n'est pas d'accord, quand il y a une communication, on arrive à l'harmonie entre les choses. Parce qu'en réalité, que ce soit un homme et une femmes, ou deux hommes, ou un enfant et un adulte, c'est toujours des caractères qui s'affrontent. C'est très très rare ce qu'on David et Jonathan. L'amour entre les individus, c'est très rare, c'est très difficile. Pour arriver à ça, il faut un travail énorme entre deux, s'entendre de la merveille d'un bout à l'autre. Sinon, même les gens qui s'entendent le mieux, vient un moment où ils s'affrontent. Toujours. Même les plus grands amis et les plus grands intimités, la plus grande qu'il peut y avoir entre les gens, elle arrive toujours à un affrontement si on ne travaille pas sur la communication. Et donc, c'est pour ça que quand on vous dit Chaye Sarah, ça veut dire que même quand elle n'est plus là, eh ben, il est encore avec elle, ça veut dire. Il est encore dans le message de sa femme. C'est pas quelque chose de nostalgique. C'est pas nostalgique du passé. Ah, je vais faire comme Sarah, il y avait la photo de Sarah dans son salon, vous voyez. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est marié avec un principe. C'est pas marié avec une femme, c'est marié avec un principe. Principe d'une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a l'avenir dans la tête, qui n'est pas simplement l'immédiat. Et ça, c'est très, 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 c'est très rachou chez une femme. C'est-à-dire, on voit bien que dans toute l'intelligence des femmes, ça vient de là. L'intelligence des femmes, c'est de voir la suite. Ouais. Les femmes qui travaillent au coup à coup, elles sont bêtes. Maintenant, on verra plus tard. Non, les femmes intelligentes, c'est des femmes qui ont l'ambition de faire des choses qui vont durer pour les générations d'après. Quoi. ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la dans le comportement. C'est pour ça que les femmes qui divorcent, qui veulent divorcer, en tous les cas, c'est pas très intelligent, parce que tu joues le coup à coup. Maintenant, je vais être tranquille. Mais après, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants, avec le ton avenir à toi, ça rien. Non, mais avec elle est
chicoulée.
Non, on va aller envoyer une équipe et il va arrêter. C'est pas forcément divorçant qu'on le règle à lui. On peut lui faire comprendre que c'est, si tu veux te battre, il y a des hommes pour se battre. Vous voyez bien que la plupart des hommes qui battent leurs femmes dans le travail ou dans le café, ils sont comme des toutous ou sur la route. Et quand ça arrive chez eux, ils se déclenchent sur la femme et les enfants. C'est des faibles. Quelqu'un qui a besoin. Si tu frappes tout le monde, si tu frappes des hommes forts, alors tu frappes pas une femme. C'est quelque chose qui provoque, c'est pour faire d'un caractère infantile. Ouais. En tous les cas, je vous dis franchement, si les gens d'avant, ils avaient dû divorcer pour les raisons d'aujourd'hui, ils n'ont même pas regardé les raisons d'aujourd'hui. Non, mais parlons pas de cas anormaux. Parlons des patriarches, parce que c'est eux qui nous intéressent.
Quand les anges viennent, les annoncent à Abraham qui va avoir un enfant.
Vous parlez de la paracha de la semaine dernière, voyez Rav.
Entre ce temps-là et entre le temps où il y a eu combien d'années
Non. Alors, boule, puisqu'ils disent les anges, ils disent quand le soleil arrivera sur le fil rouge qu'on a fait sur le mur. Ça s'est passé juste avant. Ils sont venus à Pessah. Et dans la nuit de Pessah, ils ont détruit ce gars. Et le lendemain, à Pessah, il est né.
Et il avait quel âge, Ismaël ?
13 ans. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce parachat de Vakraï Sarah et sur le enseignement qu'on doit en tirer vis-à-vis de la relation entre hommes et femmes qui n'est pas du tout une relation calme. Sarah, c'est une femme admirable. Il faut vraiment retenir ce qu'elle a réussi à faire. Quoi. Et donc, on voit bien qu'on peut être une femme de personnalité. Et c'est pas en allant au bedding qu'on montre sa personnalité, je veux dire. Elle a eu de la personnalité à l'intérieur du couple, pas à l'extérieur. Enfin, c'est pas une grande sagesse que d'avoir de la personnalité. C'est pas en cassant les choses qu'on prouve qu'on a de la personnalité, c'est justement en construisant. Vous voyez bien d'ailleurs que toutes les matriarches, quand elles n'ont pas d'enfant, elles cherchent à l'avoir parce que Ben veut dire binyan. Elle veut le construire, elle ne veut pas détruire. Quand elle a pris Agar, elle a dit Shema Ibané. Je serai construit d'elle. Ibané. Donc, sur ce sujet de construire. Comme j'expliquais l'autre fois, c'est la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant, on détermine la différence par la capacité de construire ou détruire. Un enfant détruit. Quand vous donnez quelque chose à un enfant, il va essayer de le casser, il ne va pas essayer de s'en servir. Oh, un garçon ou fille. À quel moment on voit que quelqu'un est un adulte, c'est quand il construit. D'ailleurs, si vous avez un enfant qui construit, si vous lui donnez un objet qui s'en sert, vous dites, c'est lui. Ouais. Il a su enlever le stylo, le remettre, etc. Donc ça veut dire, il montre par là qu'il est un adulte. Donc l'individu enfant, il prouve qu'il est un enfant par cette volonté de détruire qu'il a. Et un individu prouve qu'il est un adulte quand il construit. Et plus on est adulte, et plus on est capable de prendre des morceaux et les construire. Pas d'accepter quelque chose qui est détruit. Donc c'est un bignan. L'adulte fait un bignan, alors que l'enfant il fait un RS.
Mais alors, où est le gène de l'enfant alors ?
Où est
le gène de l'enfant.
Mais alors, quand on est un enfant, on doit le casser. Et c'est aux adultes de lui apprendre à ne pas casser. De lui apprendre de, que le monde est venu pour le tikkun, pas pour le RS, pas pour la destruction. Dans le couple et dans la vie, etc., c'est l'instinct de destruction est un instinct qui vient justement de Caïn.
Quand
mauvais côté de la marichonne.
Quand il a des gens bien, exactement.
C'est pour ça qu'il faut, pour se sentir bien, il faut construire. C'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on doit détruire. Au contraire, si tu te sens pas bien, continue à construire, tu vois, ça va se régler. La seule fois où tu as le droit de détruire, c'est le verre sur la roupa.
On va y aller.
On arrivera pour le dessert. Voilà. Bonne soirée. Un bon Shabbat. Et que Dieu nous délivre.
Amen.
Mais plutôt que nous puissions rencontrer Abraham et Sarah, qui nous racontent si on n'a pas dit trop de bêtises sur leur vie. Allez, colle tout.